Yala. On est lancé pour Boker, enfin, non, pas Boker, pas du tout. Erev Tov, les Koulam. Erev Tov, les Koulam. Et on revient dans notre. Ben, c'est ça, Vena Forou complètement. Et on est lancé pour une étude spéciale Pourim ce soir. On sort deux secondes de Perek Relek pour rentrer Bechag à Pourim. Alors, la vérité, c'est que qu'est-ce que vous ne savez pas sur Pourim ? On sait déjà tout. On sait déjà tout. Ceux qui font rien demain à 18h, je vous enverrai, si vous voulez, le link pour vous connecter à mon cours de demain sur Pourim, qui ne sera pas du tout le même que celui qu'on va faire ce soir. Mais demain, ça sera un cours uniquement historique. C'est-à-dire, on va faire l'historique de la fête de Pourim. En tout cas, ce soir, on ne va pas parler de ça. Ce soir, j'aimerais qu'on évoque ensemble une réalité de la fête de Pourim qui est un petit peu méconnue. Omer Sefer HaZohar, dans une partie du Zohar qui s'appelle Raya Dimne Nuta, nous dit la chose suivante. Talmid Chacham Nikra Shabbat. Talmid Chacham Nikra Shabbat. C'est le langage du Zohar de Talmid Chacham Keyom HaShabbat. Qu'est-ce que ça veut dire que Talmid Chacham Nikra Shabbat ? Explique le Sfat Emet, le Rabbi de Gour. Il dit la chose suivante. Shabbat, Zerosh HaMoadim. C'est le premier dans la liste des Moadim, des fêtes dans lesquelles on rencontre Akadosh Baruch Hu. Eh bien, le Talmid Chacham, lui aussi, quelque part, il est Moed. Puisque lui aussi, quelque part, grâce à lui, on va rencontrer Akadosh Baruch Hu. On va se connecter à Akadosh Baruch Hu. Ah, est-ce que c'est Nachon pour tous les Talmidei Chachamim ? Eh bien, de la même façon qu'il y a plusieurs sortes de Moadim, il y a plusieurs sortes de Chachamim. Combien de sortes de Moadim avons-nous ? Eh bien, nous avons Shabbat et Moadim. Quelle est la différence entre Shabbat et les Moadim ? Shabbat, Barav Kaima, c'est-à-dire que Shabbat, c'est Dieu qui a créé Shabbat et on n'a pas notre mot à dire sur Shabbat. Tous les 7 jours, boum, c'est Shabbat. Alors que les Moadim, eh bien, c'est Am Israël qui va déterminer quand a lieu le Moed. Puisque c'est nous qui déterminons quand c'est Rosh Chodesh et donc qui déterminons quand c'est le Moed. De ce fait, il y a une chavivut des Moadim par rapport à Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il y a une participation de l'homme, de Am Israël, où on devient les Yatsrané Akedusha. On devient ceux qui mettent en place la Kedusha. Est-ce que là, vous me suivez ? Très bien. Maintenant, a fortiori, quand on parle de Chagim Moadim des Rabbanan. C'est-à-dire que les Moadim des Rabbanan, c'est au carré que ce sont les Chachmé Israël qui vont déterminer la Kedusha. Parce que dans les Moadim des Horaïta, la date est fixée par Dieu et c'est nous qui déterminons quand ça va tomber cette date. Mais dans les Moadim des Rabbanan, c'est complètement nous. C'est-à-dire, c'est nous qui avons décidé quand est-ce qu'on mettait en place Pourim, quand est-ce qu'on mettait en place Hanouka, quand est-ce qu'on mettait en place Yom HaAtzmaout et quand est-ce qu'on mettait en place Yom Yerushalayim. C'est-à-dire, nous dit la Gemara dans Maseret Avodah Zara, à la page 35, que ce qui est mis en place par les Chachamim, c'est Chaviv. Le lachon de la Gemara, c'est Milta de Rabbanan Chaviv. Parce qu'il y a une participation du peuple juif. Maintenant qu'on a compris ça, on peut arriver dans notre analogie. Il y a les Chagim, donc on a dit Shabbat, complètement Dieu, et Moadim, où on participe, et encore plus Moadim de Rabbanan. Pour ce qui est des Talmidei Chachamim, qui s'appellent Shabbat, eh bien nous avons également des Chachamim qui sont Miprinat Shabbat, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait pour ça, Zemayesh, et des Talmidei Chachamim qui sont devenus Talmidei Chachamim. Alors, c'est qui les Rabbanim qui sont Shabbat? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les Avot. Emlo Asukloum. Dieu les a choisis pour être les Avot. Em Shabbat. Mais il y a les Talmidei Chachamim qui, par leurs actions, sont devenus les repères pour nous, à savoir Moshe, Aaron, Yosef et David. Pourquoi est-ce que je parle de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David? Nous, vous avez compris, Zeshiva, Ushpizin, Ilaïn, Kedishin. Et donc, ça tombe bien, parce que des fêtes des Oraïta, des Moadim des Oraïta, nous en avons quatre. En l'occurrence, l'ironie de l'histoire a voulu que ce soit Aman qui a fixé la date de la fête de Pourim. On va y revenir. On va y revenir. Donc, des Moadim des Oraïta, on en a quatre. On a Pessach, Shavuot, Sukkot et Yamim Noraim. Vous allez me dire si on est deux, Menachot, mais elles sont présentées dans un ensemble dans la Torah. Rosh Hashanah, Veyom HaKippur. Et il y a également quatre Moadim des Rabbanan. Pourim, Hanouka, Yom HaAtzmaout, Veyom Yerushalayim. Oui, ce sont des Moadim Yom HaAtzmaout et Yom Yerushalayim, puisqu'ils ont été décrétés par le grand rabbinat d'Israël. Ils sont donc maintenant faisant partie de la tradition des Moadé Israël. C'est-à-dire, celui qui ne les fête pas fait une erreur. De la même façon que celui qui annulerait Hanouka, c'est une erreur. Donc, très bien, si on a quatre Chachamim et quatre Moadim, eh bien, vous comprenez où je veux en venir, il y en a un pour chacun. L'Admout, qui est l'Admout rattaché à Pessah, c'est Yosef HaTzadik. Parce que c'est Yetzia Me'avdout Lecherut, et il s'agit de la Géoula physique du peuple juif, qui est l'apanage de Mashiach Ben Yosef. Après, nous avons Shavuot. Bon, Shavuot, c'est Pashut. C'est Moshe qui nous donne la Torah. Sukkot, c'est Anané Kavod, c'est Aaron HaKohen. Et enfin, les journées où on est Mamlich et Akadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah et Makipurim, eh bien, c'est David HaMelech. Pashut. Mais vous voyez certainement où je veux en venir une deuxième fois, c'est que ces quatre personnages correspondent également au Moadim des Rabbanan. Pour Yom Yerushalayim, c'est facile, c'est David. C'est sa ville, mais al Malchut Israël. Yom Ha'atzmaout, la Géoula physique, encore une fois, Yosef HaTzadik. Hanouka, c'est pas chute que c'est Aaron HaKohen, puisque toute la fête a été mise en place par les Kohanim. Et enfin, après je ne sais pas combien de minutes d'introduction, 8 minutes 30 d'introduction, eh bien vous aurez compris que tout ceci était mis en place pour que nous arrivions à Moshe Rabbeinu, qui est le Chacham de Pourim par excellence. La fête de Pourim, c'est la fête de Moshe Rabbeinu. Il est le personnage le plus adéquat pour Pourim. Et j'en veux pour preuve, eh bien, que tout simplement, Moshe Rabbeinu, le jour de Pourim, c'est sa Brit Mila. Il est né le 7 Adar. Donc, sa Brit Mila, c'est le jour de Pourim. Vous allez me dire, mais non, le Midrash nous dit que Moshe, il est né Maoul. Il est né avec la Brit Mila. Je répondrai, d'accord, mais même quelqu'un qui est né avec la Brit Mila, il se doit quand même de faire ce qu'on appelle Atafat Dam. Il doit faire sortir une goutte de sang. C'est-à-dire qu'il y a quand même une Brit Mila. Donc, Moshe Rabbeinu fait partie intégrante du Ham Israël Bechag HaPurim, le 15 Adar. Et donc, vous comprenez pourquoi c'est cette personnalité-là qui est tellement centrale à Pourim. D'ailleurs, c'est marqué dans la Megillah. Dans la Megillah, au chapitre 7, verset Kaf Gimel, il y a marqué « Vekibel ha-Yehudim et asher echelou la-asot ». Alors, on ne le lit pas comme ça. C'est ce qui a marqué dans la Megillah. Mais nous, on lit « Vekibelou ha-Yehudim ». Il y a un crictive. Parce qu'effectivement, « Yehudim », c'est au pluriel. Donc, ça ne peut pas être « Vekibel », ça doit être « Vekibelou ». Ron, pas shoot. Ouais, vous êtes avec moi? Nous dit le Sefer HaZohar, mais c'est dans la parashat qui dit ça. On dit, mais c'est Vekibel HaYehudim. Mise Echad Shekibel. C'est qui celui qui est un et qui a reçu? C'est Moshe Rabbein. C'est ça? Donc Moshe Rabbein est directement lié à la fête de Pourim. Il semblerait que c'est la Torah de Moshe qui est la plus propice à l'époque de Pourim. Vous le savez, nous avons étudié cela des dizaines et des dizaines de fois, donc vous le connaissez par cœur. Vous savez qu'il y a une grande différence entre deux Torahs qui sont toutes les deux nécessaires pour avoir une vision globale de la volonté divine, mais qui sont complètement différentes. La Torah de Moshe d'un côté et la Torah de Aaron de l'autre. Pourquoi je dis qu'on a besoin des deux pour avoir un véritable dévoilement divin? Eh bien, tout simplement parce que dans la Torah, dans la paracha de Bo, on va nous dire tout simplement « Daberu el koladat bene Israël ». Mais c'est « Daberu », dit Rashi, « Vechi Aaron medaber, alors kvar nehemar atat daber, ela choltim kavod zelaze, Moshe shoel et Aaron mashamata, ve Aaron shoel et Moshe mashamata, והדיבור יוצא מבין שניהם. En d'autres termes, Moshe et Aaron entendent la parole divine et ils se demandent l'un l'autre, qu'est-ce que toi t'as compris, qu'est-ce que toi t'as compris, et la volonté divine sort d'entre les deux. Nous avons donc besoin de la Torah de Moshe d'un côté et la Torah de Aaron. Mais quelle est la différence entre ces deux Torahs? Eh bien, on le sait très bien. La Torah de Moshe est une Torah intransigeante. Une Torah moutard, assour, assour. Alors que la Torah de Aaron, c'est une Torah qui est prête à descendre avec le fauteur pour l'élever. On voit ça avec la faute du veau d'or, évidemment. Maintenant, celui qui a gardé la qualité de Aaron de temps en temps transgresser la halakha pour faire tchouva aux gens, c'est le prophète par excellence. Les Nevi'im, ils ont le droit, de temps en temps, d'annuler une Torah temporairement pour faire Teshuvah, et faire Teshuvah, Slicha, au Am Israël. Exemple classique, Eliyahu Be'ar HaKarmel, qui fait le test des prophètes, est-ce que ce sont les prophètes de Baal ou lui, qui est le prophète du vrai Dieu, et on fait un test, et on fait un sacrifice à Dieu, un sacrifice à Baal, et voyons voir où le feu va descendre. C'est interdit par la Torah, car nous sommes à l'époque du Beth Amikdash, et faire un sacrifice à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est karet. Mais Eliyahu, lui, il a le droit. Ça donne ? Le problème, c'est que ceci marche uniquement lorsqu'il y a des prophètes. Or, à l'époque de Pourim, c'est l'arrêt de la prophétie. L'époque de Pourim, c'est le moment où il n'y a plus de prophétie. Nos sages verront même dans la personnalité de Mordechai Malachi, le dernier des prophètes. Et que nous dit Malachi? Sefer Malachi, chapitre 3, verset Kafbet. Zichru Torat Moshe Avdi. Zichru Torat Moshe Avdi. Torat Moshe. Et non pas Torat Aaron. Parce que dans une époque où il n'y a plus de névoie, eh bien, on ne peut plus prendre la Torah de Aaron. Il faut se cantonner à la Torah de Moshe. Ainsi, eh bien, la période de Pourim est d'autant plus propice au dévoilement de l'identité de Moshe. C'est la raison pour laquelle lorsque on voudra faire une dracha dans la Gemara dans le traité de Houlin, à la page 139. Là-bas, on va nous poser une question. Moshe mina Torah minaïn. D'où on voit que Moshe est marqué dans la Torah ? Bon, déjà, la question en elle-même, elle est complètement folle, comme si ça manquait de versets où on citait Moshe dans la Torah. Réponse de la Gemara, où est-ce qu'on peut trouver Moshe dans la Torah ? Kikatouf, sauf... pas de... Ouais, mais sauf parachat noir. Il y a marqué là-bas, Beshagam ou Bassar. Non, c'est là. L'olob sauf parachat Bereshit, c'est là. Où il y a marqué là-bas, Beshagam ou Bassar. Veyu Yamav Meave Esrim Shana. Mazé Beshagam, on nous dit, Zegematria Moshe. Et qui a vécu 120 ans, c'est Moshe. Donc on voit Moshe juste avant le déluge. C'est là qu'on découvre et qu'on apprend l'existence de Moshe d'après la Torah. Seulement, la Gemara, quand elle fait cette drasha-là, elle nous dit Moshe mina Torah minain. Dans le même souffle, elle dit Ve Aman mina Torah minain, Esther mina Torah minain, Ve Mordechai mina Torah minain. En d'autres termes, vous voyez bien que l'identité de Moshe est directement reliée à Aman, Mordechai et Esther, à l'histoire de Pourim. Et ainsi, vous comprenez pourquoi nos sages nous disent « Adar kibloua bimé Achashverosh » qu'à l'époque de Achashverosh, on a accepté la Torah de Moshe. Ça y est, enfin on l'a accepté. Ça veut dire quoi, enfin on l'a accepté ? Avant, on ne l'acceptait pas. Tshuva, l'eau. Avant, on ne l'acceptait pas. Ou du moins, on n'avait pas vraiment le choix de l'accepter ou pas. Comprenez bien un petit peu comment ça se passe au niveau historique, les amis. Au niveau historique, il faut bien se rappeler d'une chose. Depuis la sortie d'Égypte et jusqu'à Pourim, tu n'as pas vraiment le choix d'être juif. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Une fois qu'on est sorti d'Égypte, et que donc celui qui est sorti, eh bien, toute l'histoire, il est, ben maintenant qu'il est là, il fait partie de notre identité nationale, qu'il le veuille après, ou qu'il ne le veuille pas. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien oui, replongez-vous dans l'époque. À l'époque du Tanakh, imaginez-vous un juif qui en a marre de faire partie du peuple juif. Où va-t-il aller ? Vous croyez qu'il peut aller à Moab, à Ammon, chez les Knaanim, chez les Mitzrim, chez les Plishtim ? Personne ne va l'accepter. Il y a là-bas des frontières bien définies au niveau identitaire. Et donc, une fois qu'il fait partie du clan Israël, il ne peut pas aller chez quelqu'un d'autre. Il est donc, il subit l'identité juive. Mais elle est là, qu'il le veuille ou pas. À Pourim, c'est la première fois où on va pouvoir, si on le désire, s'assimiler. Et surtout à la fin de la Megillah, où on a un chef d'État qui est juif, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire, évidemment. Mais un chef d'État est juif, et les Juifs sont bien vus à ce moment-là. Ben, quel est-il de plus facile que de s'assimiler à ce moment-là ? De décider que je ne veux plus faire partie de l'identité d'Israël. Et donc, Adar kibloua bimé Achashverosh, à l'époque de Pourim, on a accepté de nouveau, mais cette fois Beratzon, de continuer à faire partie de l'identité d'Israël. Ce n'était pas obligatoire, mais on l'a accepté. Donc on a dit, Moshe, son identité est directement liée à la fête de Pourim. Mais ça va au-delà de cela. Ils sont également liés, Moshe et Pourim, dans ce qui leur manque. Quel est le manque de Moshe ? Si vous deviez mettre l'accent sur une chose qui manque à Moshe Rabbeinu.
C'est de ne pas être rentré en Israël.
Ben évidemment. Ce qui manque à manger, c'est la terre d'Israël. Et c'est exactement ce qui manque à la fête de Pourim. La fête de Pourim est une fête de galoute qui commence...
Il y a un truc que je n'ai pas compris.
Oui.
Il y a apparemment des tombes de Yocheved, de Myriam, à Tibériade, de tout le monde, de Tipora, sauf de Moshe, en fait.
Bon, d'abord, tu as compris que toutes ces tombes-là, elles sont extrêmement récentes.
Ah, ok.
C'est-à-dire que, mais c'est récente. C'est récent qu'on te dit, ah bah tiens, ça c'est la tombe de... Deuxièmement, il y a de fortes chances que, historiquement parlant, ils aient été enterrés dans le désert quand ils sont morts. Maintenant, même si tu me dis qu'ils les ont ramenés avec eux, ce en quoi je doute, Moshe, non.
C'est ça.
Donc, c'est-à-dire que Moshe, quoi qu'il arrive, lui, il n'a pas la dimension de connexion avec la terre d'Israël. Et il en va de même pour Pourim. Pourim, c'est une fête de galoute, de A à Z. On a commencé la fête en exil, elle s'est déroulée en exil, et on termine la fête, on est toujours en exil.
Et c'est pour ça qu'on ne fait pas le halal, d'ailleurs.
Et c'est pour ça qu'on ne fait pas le halal, exactement. Puisqu'il y a marqué dans le halal la première phrase, « Alléluia, Alléluia, Avdé Hachem ». Et qu'à la fin de l'histoire de Pourim, on est Avdé Achashverosh. On est toujours serviteur d'Achashverosh. Ein Mala Asot. Bon, vous comprenez que cette phrase-là, elle est lourde de sens et de conséquences. Vous allez dire encore que je suis un provocateur. Mais moi, j'ai une fâcheuse tendance. Et Bémet, je vous le dis, quoi. J'ai une fâcheuse tendance à Béhémet croire que nos textes disent la vérité. J'ai une fâcheuse tendance à vouloir les amin bedivrei Torah ve bedivrei Chazal. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas confiance dans les divrei Chazal, avala niken. À l'époque du Pourim, la majorité n'est-elle pas assimilée? Attends, il me manque la fin. Attends, je vais te retrouver dans le chat. Où es-tu, chat? Voilà. À l'époque du Pourim, la majorité n'est-elle pas assimilée puisqu'ils ont refusé de monter et reconstruire le temple malgré l'autorisation du roi précédent? Nous, c'est exactement ce dont on parle. À Pourim, le choix de est-ce qu'on s'assimile jusqu'au bout ou est-ce qu'on décide d'avoir une nouvelle identité, une nouvelle impulsion, c'est à ce moment-là que le choix va être fait. J'y reviens dans une seconde, si tu permets. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'ai une fâcheuse tendance à avoir cette émouna dans les paroles de nos textes et de nos sages. Si on nous dit dans la Gemara, Maseret Megillah, page 14, qu'on ne peut pas dire le Hallel parce que il y a marqué Alléluia, Alléluia, Avdé Hachem et que nous on est Avdé Achashverosh, ça veut dire qu'on n'est pas Avdé Hachem. Ça veut dire que quand on est en exil, on ne peut pas être serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, et qu'est-ce qu'on fait avec tous les gens qui sont très religieux pendant l'exil? Les rabbanim, les rochers et chivotes de Babylone. Et de Malassot, ils le savent très bien. C'est le Talmud de Babylone qui a écrit cette phrase. Donc, il ne se cherche pas d'excuses. Il sait très bien que lorsque tu es à Babylone, tu as beau être religieux avec des péotes et un chapeau, tu es supervisé spirituellement par ce qu'on appelle Sar Aouma, par on va dire la force spirituelle qui gère la nation dans laquelle tu es. Or, lorsque tu es en Eretz Israël, tu es dirigé directement par Akadosh Baruch Hu. C'est une réalité. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais, donc ça veut dire qu'à l'époque de Pourim, on est tous assimilés. Nachon. Et à la fin de la Megillah, il y a un choix. Puisque à la fin, pendant la Megillah, a été clairement remis en question le statut des Juifs. C'est-à-dire, si avant la Megillah, avant le Mishté, les Juifs pouvaient s'assimiler tranquillement, à la fin de la Megillah, il apparaît évident que le statut des Juifs a été remis en cause. Alors, au final, ça s'est bien fini pour nous. Mais évidemment que le côté juif des gens a été mis en surbrillance. C'est-à-dire, vous avez lu le même texte que moi. Donc, après la Megillah, que Mordechai est vice-roi, La question se pose, est-ce que je continue à rester à Shushan Abira et je continue à m'assimiler, ou je décide l'autre option et je vais venir une quinzaine d'années plus tard avec Ezra et Nehemia. Et désolé de vous le dire, mais de ceux qui sont restés à Shushan Abira, il ne reste plus rien. De ceux qui sont partis à Ezra et Nehemia, avec Ezra et Nehemia, hein, eh bien, c'est développé Baït Sheni, l'époque du Second Temple. C'est vrai ? Alors, vous allez me dire, non, mais il y avait encore des gens qui sont restés à Babylone. Oui, mais ce n'est pas la grosse communauté de Babylone qui va donner le Talmud de Babylone. C'est après la destruction du Second Temple. C'est-à-dire, donc, eh bien, effectivement, à Pourim, on va décider ou non qu'on veut s'attacher à la Torah de Moshe. Mais j'ai dit, ce qui nous manque énormément, c'est la terre d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, quelle est la halakha centrale de la fête de Pourim ? The halakha de Pourim, et on ne s'en rend pas compte. Mais il y a quand même une halakha qui est la plus importante de la fête. Je vous rappelle que la fête, elle est censée nous rassembler. Or, il y a une halakha de Pourim qui est la plus désassembleuse de toutes les halakhot. À savoir, Mukafim ou Prasim. Vous vous rendez compte que Pourim, c'est la seule fête où on ne la fait pas au même moment dans tout le peuple juif ? Il y a ceux qui se plantent et qui la font le 14, et il y a ceux qui ont raison et qui la font le 15. Mais attendez, deux secondes. Bah écoutez, comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'on fait le 14 ?
Moi j'ai une explication, mais je ne sais pas si c'est la bonne.
Le 14, vas-y, dis-moi.
Parce qu'on dit qu'il faut étudier la Torah en permanence, comme on n'a pas le droit d'étudier la Torah pendant qu'on a bu et que dans le Mishté on boit, on ne peut pas étudier la Torah. Donc c'est pour ça qu'on a divisé le peuple en deux, ceux qui sont à l'intérieur des fortifications et ceux qui sont à l'extérieur des fortifications. Comme ça, il y a toujours quelqu'un qui étudie la Torah.
Tu veux pas nous faire une guématria de 68 ? Non, je vais te dire, il n'y a aucune obligation d'étudier, toi et moi, en permanence la Torah. Toi et moi, on doit étudier tous les jours la Torah, mais on ne doit pas étudier toute la journée.
Mais non, mais il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui étudie. Or que comme la totalité des gens...
Attends, deux secondes. Ça veut dire quoi ? Il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui étudie.
Bah, c'est ce qu'on dit que...
Ouais.
Tiens, si les enfants
étudient. Et comme tu le sais, tout le monde étudie tout le temps. C'est pas, il y a jamais un problème de ça. Parce que même si tout le monde faisait Pourim le même jour, disons que comme pour toutes les autres fêtes, on fait Pourim le même jour. C'est-à-dire, bah, il y a le décalage horaire. Donc le Mishté à New York, il sera pas au même moment que le Mishté à Jérusalem. Ah. Ah. Rabotai, c'est pas ça la raison officielle. Hein. La raison officielle, c'est que tout simplement, le 14, bah, c'est à l'époque de Shushan, c'est le jour où les Juifs dans le monde se sont reposés, parce qu'ils ont fait la guerre le 13. Sauf qu'à Shushan, ils ont demandé de continuer à battre leurs ennemis le 14, et donc le 15, ils se sont reposés. Seulement, quel rapport avec la halakha en elle-même ? Puisque la halakha nous dit que qui va faire le 15 ? Les villes fortifiées depuis l'époque de Yehoshua bin Nun, depuis notre entrée en Israël. Quel rapport avec Shushan ? Eh bien, nous dit le Rambam, la loi du 15 Adar, c'est qu'aider la tête kavod le Eretz Israël shaita chareva ba'etai. C'est uniquement pour donner du kavod à la terre d'Israël. Ze ha'inyan shel Purim. D'ailleurs, pourquoi c'est le 14 ? Les fêtes, elles sont le 15 normalement. Le 15 Nissan, le 15 Tishrei, le 15 Shvat, le 15 Iyar. Il n'y a que des fêtes le 15. Parce que c'est la pleine lune, c'est le moment de la force du mois. Ma'akesher 14. Il semblerait que comme la fête n'est pas à sa place, elle n'est pas à son heure normale. C'est un peu comme Moshe, qui a un problème aussi avec sa montre. Vayaraam ki boshesh Moshe, la redet minahar. Moshe aussi, il a un problème de géographie. Il n'est pas au bon endroit. Vous comprenez à quel point la Torah de Moshe, c'est la Torah de Purim. C'est la personnalité de Purim. Alors, c'est la raison pour laquelle, eh bien, Moshe va nous donner un enseignement qui est l'enseignement de Purim. Vous savez, dans la paracha de Kitissa, hein, en général, on la lit à la bord de Purim. Bon, là, c'est une année à 13 mois, mais normalement, Kitissa trompe très souvent à côté de Purim. Dans la paracha de Kitissa, on nous raconte que Moshe est arrivé au top de sa carrière spirituelle. Il a été parlé avec Dieu et il a reçu les deuxièmes tables de la loi. Folie. Extraordinaire, Moshe. Et à ce moment-là, Rabotai, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous dit la Torah. Nous dit la Torah dans le livre de Shemot, au chapitre 34, que lorsque Moshe descend du Har Sinaï, pour la deuxième fois ou troisième fois, avec les deuxièmes tables de la loi, Katouv, ou Moshe Loyada. Kikaran or panav. Et Moshe ne savait pas. Pas Moshe ne savait pas que son visage éclairé. Mais Moshe ne savait pas lorsque son visage éclairé. En français, ça veut rien dire. En hébreu, ça veut tout dire. Moshe a atteint la dimension de la Torah de Purim. Qui est Ad Delo Yada. La dimension de Purim, c'est Chaya Vinish Lebesume Bepuraya. Ad Delo Yada Ben Arur Aman Lebaruch Mordechai. Le seul qui a atteint cette dimension de Ad Delo Yada, c'est Moshe. Ou Moshe Lo Yada. Kikara Norpanav. Lorsque sa face éclairée, eh bien, ça montrait qu'il était arrivé à cette dimension de Deloyada. Maintenant, qu'est-ce qu'ont fait les Bnei Israël lorsqu'ils ont vu le visage de Moshe éclairé? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Pas Moshe. Les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont eu peur. Tu m'étonnes. Tout d'un coup, il y a Moshe qui devient radioactif. Tchernobyl. Ça fait un peu peur. Donc, on recule. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Non, Jacques, ne fais pas ton geste. Parce que non, il n'a pas mis de masque. Tout le monde dit qu'il a mis un masque. Non, il faut lire le texte. Il a dit à tout le monde, venez ici, je ne mords pas. Et il leur a enseigné la Torah sans masvé, sans masécha. Et nous dit la Torah qu'une fois qu'il a eu terminé de leur enseigner, Vayasem Alpanav Masve. Une fois qu'il a terminé d'enseigner, il mettait un masque. Pourquoi? Parce qu'il voulait enseigner au peuple juif qu'il y a une Torah sans masque, une Torah dévoilée, et il y a aussi une Torah voilée, une Torah masquée. Une Torah de Ad Delo Yada. Et cette Torah-là, il ne l'a pas enseignée à tout le monde. Mais elle existe. En d'autres termes, Moshe Rabbeinu, il est le personnage principal, j'ai envie de te dire, de la Megillat Esther. Le personnage principal de la Megillah. Les amis, Ad Kedekar, que nous dit la Megillah, qui gadol Mordechai bebet amelech. Ce verset fait référence directement à un autre verset dans le livre de Shemot. Gamaish Moshe gadol meod be'eretz Mitzrayim. Le dirigeant juif a une place de choix chez les goyim. À tel point, on veut faire la référence, la corrélation entre la Torah de Moshe et la Torah de Mordechai, de Purim, qu'on dit que la Megillat Esther, elle a besoin d'un sirtout comme la Torah de Moshe. Elle a besoin de faire des lignes dans le parchemin comme pour la Torah de Moshe. Alors les amis, Purim, c'est la journée de Moshe, on a compris. Mais quelqu'un a dit, c'est quand même bizarre parce que la date, elle a été fixée par Aman, Bidiouk. Elle n'a pas été fixée du tout par Aman. Elle a été fixée par le pour. Il pile pour ou Agoral. Il a fait un tirage au sort. Et ce qui est sorti, ben c'est sorti. Aaron. Maintenant, le Goral, on a tous l'impression que à Goral, Zemachou, c'est un déterminisme, c'est la main de Dieu, elle est partout. À Goral, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il décide de se dévoiler par l'intermédiaire du hasard. Et c'est le moment où Moshe Rabbeinu va enseigner la Torah qui ressemble à celle de Purim. C'est quoi la Torah qui ressemble à Purim ? C'est Yom HaKippurim. Kippurim, comme Purim. Et dans la Torah de Yom HaKippurim, on nous dit qu'il faut prendre Shnei Seirim et il faut mettre des Goralot. Goral Echad Lashem et Goral Echad Lazazel. C'est Purim. Pour, ça veut dire Goral. Et il y en a deux des pour. C'est Purim. C'est Goral Echad Lashem et Goral Echad Lazazel. De la Torah de Moshe. Pour que tu comprennes à Purim que lorsque Moshe il nous a enseigné la loi de Seir Lazazel, lorsque Moshe nous a enseigné la loi de d'un côté on se calque avec Akadosh Baruch Hu et de l'autre, eh bien on comprend que les forces négatives, elles viennent aussi d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien c'est ce qui nous permet de faire Purim et de dévoiler la Kedusha qu'il y a dans Mordechai et Esther et quelque part la Kedusha qui sort de Haman et de ses plans. Ze a Torah shel Moshe. Ze a Torah shel Purim. Purim, c'est la fête où on s'est décroché, détaché complètement de tout ce qu'on pensait savoir. Et on a laissé Akadosh Baruch Hu reprendre les commandes. Yeshmikré, il y a des coups de bol. Comme disait Albert Einstein, le hasard, c'est la façon que Dieu a de se dévoiler incognito. Zechagapurim. Et c'est exactement également ce que nous vivons aujourd'hui. Avec le remue-ménage, que ce soit le Covid, que ce soit la guerre en Ukraine, on pensait être les maîtres du monde, dominer notre monde complètement. Et Akadosh Baruch Hu nous rappelle que non, finalement, c'est lui qui gère. De manière complètement naturelle, sans miracle, c'est lui qui gère complètement et qui va décider de la prochaine étape. Mais il nous laisse complètement, à nous, le soin de participer à cette prochaine étape. Ze Torah shel Purim, Ze Torah shel Moshe, c'est notre Torah. Et c'est à nous de mettre ça en pratique cette semaine. Bezrat Hashem, Chag Sameach, Lekulam.
Chag Sameach.
Merci, Chag Sameach. Super.
Merci. Merci.